Je suis heureux de vous retrouver, différemment que la semaine dernière où j'avais un chapeau et je faisais des choses bizarres, mais c'était une manière de fêter Noël, mais je me suis rendu compte en fait, en me demandant ce que j'allais pouvoir vous apporter ce matin, que je n'avais jamais fait de prédication sur Noël. J'ai regardé mes fiches, bon, je n'en fais pas depuis la nuit des temps non plus, hein. Pas du crocodile comme Yann Bontel qui a commencé à l'âge de 15 ans à faire des prédications. Mais j'ai jamais parlé de Noël. J'ai parlé de Pâques, de différentes choses, et jamais tombé sur moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion, à trois jours de Noël, de me lancer dans cette figure imposée qui est la fête de Noël. Alors, je sais, tout a été dit, et très bien dit, ici évidemment par Yann régulièrement, par Manu encore la semaine dernière, et d'autres personnes. Donc j'ai aucune prétention à faire un scoop, ou à vous apprendre des choses. Je voulais juste profiter de cette occasion pour qu'on essaie de revoir ensemble ce qu'est Noël, ce que n'est pas Noël, et la façon dont peut-être on peut aborder cette fête, d'une façon différente de celle que nous propose la société depuis de longues années, de décennies. J'ai toujours été frappé par le mélange des genres civils et religieux à l'occasion de cette fête. Je ne suis pas le seul, évidemment. Parce que Noël, c'est vraiment une date pivot de l'année civile, puisqu'on termine l'année, et de l'année religieuse, puisque c'est une fête qui, donc, normalement, célèbre la naissance de Jésus. Civile, parce que c'est vraiment des fêtes de fin d'année, il y a une vraie trêve familiale dans le monde entier, c'est la dernière étape avant l'année suivante, avant le grand réveillon du 31 au soir, et curieusement, aucune autre fête religieuse n'a pris autant de place dans le calendrier de tout le monde que celle de Noël. Tout le monde fête Noël, d'une façon ou d'une autre. Toute race, toute religion, tout pays, il y a vraiment, comme vous voyez les reportages dans différents endroits, il y a quasiment partout, on fête Noël, si on s'arrête, on se réunit, on se donne des cadeaux. Alors évidemment, la plupart du temps, souvent loin de toute idée religieuse, mais la fête de Noël, qui s'appelle comme ça partout, donne cette possibilité à tous les êtres humains de partager, de se retrouver, de se rassembler et d'avoir un moment en commun. Et c'est quand même très très curieux. À Pâques, c'est pas comme ça. D'autres fêtes religieuses, d'autres religions n'ont pas cette forme d'universalité. Noël, là. Alors sans doute parce que finalement, c'est pas l'événement, c'est pas la fête de Jésus. Enfin, on fête la date avant de fêter l'événement. Je m'explique. Le premier événement fêté ce 25 décembre, c'est pas la naissance de Jésus. En fait, c'est la naissance du soleil. Le 25 décembre, c'est proche du solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue, qui donc c'était le 21 décembre, et ensuite le soleil renaît. Et quand on fait quelques recherches, et vous le savez aussi, toutes les civilisations ont d'une manière ou d'une autre fêté cet événement naturel. C'est une source de renouveau, source de fécondité. Chez les Romains, dans toutes les traditions dans lesquelles on peut remonter, il y a un moment au solstice d'hiver qui est riche, qui est fort, où on se projette vers l'avenir qui va être forcément plus agréable, puisque le soleil recommence à remonter dans le ciel, les jours durent plus longtemps, et il y a là des perspectives d'espoir, d'avenir, etc. Et tout ce qui va tourner autour de Noël, que l'on connaît, les cadeaux, les illuminations de Noël, le gui, le hou, etc., en fait, proviennent de toutes ces traditions, entre guillemets, païennes, qui existent depuis extrêmement longtemps. Par exemple, les lumières, on mettait ça pour célébrer le solstice, donc, et surtout montrer qu'on chassait les mauvais esprits de la nuit, en mettant de la lumière, les cadeaux. Quand on va chez les Romains, lors de la fameuse fête des Saturnales qui avait lieu dans le début du mois de décembre, il y avait échange de cadeaux, entre les maîtres, même avec les esclaves, etc. Le gui, le hou, c'était chez les Gaulois des fleurs, des feuilles qui avaient des vertus contre les maladies et contre le mauvais sort. Le hou qui était toujours vert était vénéré parce qu'on voyait la promesse d'un arbre qui ne perdait pas ses feuilles, donc un soleil qui revenait. L'arbre de Noël, les sapins, c'était, on mettait dans les maisons l'arbre qui était vraiment l'emblème de ce qui ne disparaissait pas, toujours avec des feuilles non caduques. Et c'était une espèce d'espoir planté dans la maison ou près de la maison qui montrait qu'un jour, le soleil allait revenir et la vie allait pouvoir recommencer. Et c'est ça, en fait, qui est fêté à Noël le 25 décembre. C'est surtout ça, dans l'inconscient ou le conscient des peuples qui le fêtent, des humains en général. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est comment cette fête du soleil et celle de la naissance de Jésus ont pu se rencontrer. Et peut-être qu'on aura une réponse à la question que je posais au début. Parce qu'au départ, rien ne rapproche ces deux fêtes-là. La date déjà, et vous le savez, le 25 décembre n'est absolument pas la date de la naissance de Jésus. On serait plutôt proche d'une naissance au printemps, voire au mois de septembre, d'après les histoires des bergers qui sont dehors, etc. En plus, ça n'a pas commencé en 0 avant Jésus-Christ, plutôt en moins 4 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est né avant lui-même, par des tas de petits détails comme ça. L'importance, surtout, qu'en donnent les évangiles, il y a très peu de place dans les évangiles, sur la naissance de Jésus. Très, très peu. Marc et Jean n'en parlent absolument pas. Et Luc et Matthieu se partagent le boulot, en quelque sorte. Matthieu, de façon très, très rapide, puisqu'il dit simplement cette phrase-là, donc après avoir expliqué l'annonce à Marie, bien sûr, il dit, ça tient en un verset, je vais vous lire, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Point final. Il n'y a que ça. Et il passe tout de suite à l'épisode des rois mages, enfin des mages, qui arrivent et qui être réquisitionnés par Hérode en quelque sorte, pour les raisons que vous savez, puisque Hérode veut se débarrasser de celui qu'on appelle un futur roi. Et Luc, de l'autre côté, lui en parle plus. Tout ce qu'on sait sur Noël, ça vient de l'évangile de Luc. Il y a un chapitre où il parle en effet du recensement. C'est pour ça que Joseph part avec Marie et qu'ils arrivent dans une hôtellerie. Alors là encore, les choses ne sont pas nettes du tout parce qu'il en parle de façon assez confuse. On est tous là avec notre espèce d'étable et de crèche. Il est a priori beaucoup plus évident que Joseph, puisqu'il était censé revenir sur les lieux où vivait sa propre famille, devait connaître des gens là-bas, que la maison devait être pleine, qu'il a dû donc sans doute aller dans la chambre du bas où il y avait les animaux qui étaient là, où il y avait la chaleur humaine, etc. Et que c'est là que Jésus serait né. Enfin, je veux dire, si on se plonge exactement dans ce que disent les évangiles, ils en disent très très peu, on est déjà loin de tout le folklore que l'on connaît, et les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'elles ont été transformé en légende, en quelque sorte. Et les seuls autres textes qui parlent de la naissance sont les évangiles apocryphes, les évangiles qui ont été écrits un peu plus tard et qui n'ont pas été retenus comme étant parole de Dieu, et qui en effet, je les ai encore relus hier, sont pleins de choses incroyables, des miracles, des choses qui bougent, des très très étonnantes. Et d'ailleurs, c'est là qu'apparaissent l'âne et le bœuf. Enfin, tout ça, vous le savez, puisque j'ai dit, plusieurs d'entre vous l'ont brillamment dit les années précédentes. Mais je voulais juste le re-redire pour vous montrer que la naissance de Jésus est en fait sous-traitée dans les évangiles, comme si le sujet n'avait absolument pas d'importance. Jésus-Christ lui-même ne nous demande pas ensuite de nous souvenir de sa naissance. À aucun moment, il nous dit « souvenez-vous de ma mort » avec l'institution de la scène. Paul, idem. Paul ne parle pas de la naissance de Jésus. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est un point important de notre foi. Le point d'orgue de la vie de Jésus, ça se situe à la fin. Ça se situe absolument pas au début. Et d'ailleurs, sans Luc, on ne saurait quasiment rien de cette naissance. Alors on peut se demander pourquoi lui en a parlé. Parce que son évangile se veut biographie, vous le savez bien. Quand on est au tout début de l'évangile de Luc, il y a le fameux prologue, il dit « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès les commencements, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc lui, et ça vous le savez aussi, se situe comme un biographe qui va essayer, contrairement aux trois autres, de replacer Jésus dans une réalité quotidienne. Et c'est pas pour rien qu'il est avec Paul. Paul qui s'occupe d'évangéliser les païens. Et donc il faut que ces gens-là aient du grain à moudre. Ils n'ont pas les traditions juives en tête. Donc il va leur mettre à disposition une biographie. Et toute biographie commence par la naissance. D'ailleurs, c'est assez moderne, parce qu'à cette époque, tous les éléments biographiques qu'on a sur les grands hommes, les grands philosophes, etc., ne parlent jamais de leur naissance. Donc le fait que Luc s'y intéresse est assez moderne. Mais il s'y intéresse d'une façon un peu particulière. Quand on lit tout l'évangile de Luc, je vous l'ai fait mille fois, on se rend compte que ce qui est lié à la naissance est d'un style très particulier. Il y a des anges, ça chante, ça crie, alors que le reste de l'évangile est beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre, beaucoup plus événementiel. Et là, il y a déjà une forme de mise en valeur, de mise en légende de l'événement. Alors, je suis pas capable de vous dire pourquoi. Simplement, c'est pas moi qui l'ai. C'est l'hypothèse que pour les païens qui recevaient cet évangile, il était important que dès le début, la personne à qui on leur demandait de croire et qui ne correspondait pas à leur canon habituel, soit dès sa naissance quelqu'un qui montrait des aptitudes particulières et ou qui avait été reçu d'une façon particulière et qui nécessitait tout notre intérêt. Et ces deux événements, donc la naissance du soleil et la naissance de Jésus, vont seulement être réunis au 4e siècle. Il y avait eu dès l'an 274 un empereur romain qui avait mis le 25 décembre une fête qui s'appelait le Dies Natalis Solis Invictus, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Et donc, c'est la grande fête du soleil, donc le Sol Invictus. Et il y avait aussi un jour, c'était proche de la naissance de la divinité solaire Mitra. Donc tout ça, je vous passerai très vite parce que on rentrerait dans des considération qui risquerait de vous ennuyer. Ce qui est important de savoir, c'est que la première date de Noël reconnue comme telle, avec Jésus au sens, c'est en 366 à Rome, où l'empereur, après sa conversion, dit voilà, le 25 décembre, ça va être la fête de la naissance de Jésus, puisque l'Empire romain devient chrétien à ce moment-là. Donc, il est évidemment clair que cette date était choisie afin d'adopter les coutumes liées à cette date à la nouvelle religion qui se met en place, en leur donnant donc un sens nouveau. Et cette manière de s'adapter aux traditions païennes de ces peuples qu'on va faire rentrer dans la grande famille du christianisme a été aussi mise en place à propos de la Vierge Marie, c'est-à-dire le culte marial. Il va être mis en place à partir de cette époque-là, pareillement, parce que les païens qui se convertissent sont en manque de figures féminines dans le christianisme, donc la Vierge Marie va pouvoir remplir ce rôle, et au fil des siècles, en prendre un de plus en plus important avec l'Église catholique. Ce qui est intéressant de se voir, c'est que les pères de l'Église à cette époque, ils vont aussi abonder dans ce sens, puisqu'ils vont retrouver dans l'Ancien Testament, comme dans Malachie, qui parle de Jésus comme la venue du Messie, comme celle de l'astre levant, comme le soleil de justice. Et donc, le Christ nouveau-né devient métaphoriquement une symbolique du vrai soleil, du nouveau soleil qui resplendit sur le monde. Ainsi, le Noël chrétien peut être vu comme une contre-fête, en fait, opposée par les chrétiens au Noël païen. Alors, Noël, ça vient du latin natalis, qui veut dire mort. On est vraiment sur quelque chose qui est autour de la naissance. En fait, c'est ça, Noël. Brosser un très très grand fait. Je m'excuse pour les spécialistes, parce que j'ai été un peu rapidement, mais je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais je vais juste les remettre en route, en place. Noël, c'est ça. C'est un mélange d'histoire, de calcul religieux et politique, de superstition et de foi. Alors évidemment, je ne vous parle pas du Père Noël. Donc c'est intéressant de savoir que la première trace dans la littérature française, c'est Georges Sand, du 19e siècle, qui en parle dans un de ses écrits, puis popularisé, etc., etc. Mais je ne parle pas du Père Noël, juste pour faire une mauvaise blague, c'est que le Père Noël, il tient une place très très importante parce qu'il donne une image à Noël. Cette image que Jésus n'a plus, sauf dans nos familles chrétiennes, mais c'est le Père Noël qui permet de visualiser une image humaine de ce qu'est Noël. Ça veut dire que si on le fait, c'est que les hommes, les femmes, les enfants, en ont besoin. On peut pas aimer quelque chose sans pouvoir le mettre une image dessus. C'est très dur d'aimer un concept. Par contre, aimer un gros bonhomme rouge, ça va. C'est plus simple. Ce gros bonhomme rouge, en fait, dans l'absolu, il a remplacé la base de la foi, qui était quand même Jésus, et pas n'importe quel Jésus, puisque c'est un Jésus bébé, on dit, vous savez, la célèbre formule, le petit Jésus. Mais si Noël, ça avait été que ce mélange d'histoire, de calcul, de religieux, politique, de superstition et de foi, ça n'aurait pas duré aussi longtemps, et ça ne prendrait pas si bien dans le monde entier, et depuis si longtemps. Ce qui frappe dans Noël, c'est cette notion de famille, de paix, de bonheur, de partage. C'est le besoin de se retrouver. Simplement, vous en parlez à tout le monde, Noël, c'est pas les cotillons du 31, c'est pas la grande bouffe, c'est d'abord, on se retrouve, on est ensemble, on partage, on s'offre des choses, on est heureux, on essaye d'être heureux de se retrouver en famille. Et ça devient une trêve dans l'existence. Et même les conflits sont marqués par les trêves de Noël. En 14-18, il y a des épisodes connus de soldats qui ont fait la paix pendant une nuit pour se retrouver. Regardez la grève des transports, c'est un scandale. Pas parce qu'on peut pas aller travailler, parce qu'on peut pas aller profiter de Noël en famille, on peut pas voir sa famille. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre des bons sentiments à partager. Alors ça peut paraître un peu cucu, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche partout. Parce qu'au fond de l'homme, il y a quand même, une fois qu'on laisse de côté l'ambition, la violence, l'amour, le sexe, tout ce que vous voulez, il y a d'abord le besoin de se retrouver, de partager des jolies choses, comme dans un film hollywoodien. D'ailleurs, passer Noël seul, c'est une vraie souffrance intime pour beaucoup de gens. Les gens acceptent d'être seuls à leur anniversaire, d'être seuls jour de l'an, c'est pas grave, je me couche, mais quand on est seul à Noël, on sent que ces gens sont malheureux, et à nous, on est malheureux pour eux. Il y a vraiment, pour les personnes âgées, pour les personnes divorcées, enfin, il y a mille cas de personnes malades. Être seul à Noël, c'est une vraie blessure. Et c'est bien d'ailleurs que notre église organise pour les gens qui sont seuls, justement, pour que les solitudes puissent se regrouper et qu'on n'ait pas cette souffrance intime. Et ça touche à l'essence même de ce que nous sommes. Parce qu'au fond de nous, on a vraiment besoin, je répète les mots, de paix, d'amour, de partage, de sérénité. Et ces mots-là, c'est tout ce qu'apporte Jésus. Si on y réfléchit bien, Jésus, vous n'allez pas dire colère, ambition, orgueil, conquête. La première chose qu'on va dire, là, c'est partage, amour, sérénité, paix. Et c'est ça que dit Noël. Et pourquoi c'est accepté par tout le monde? Parce que on parle d'un Jésus bébé. Et un bébé, on a toujours un regard très particulier sur un nouveau-né. Tout le monde a été devant un nouveau-né, soit le sien, soit quelqu'un de sa propre famille. On est devant un sentiment de nouveauté, de perfection, de la création, de toutes les possibilités pour l'avenir. On dit cet enfant, tout est ouvert encore. Il y a aussi un sentiment de faiblesse, de fragilité. On se dit, mon Dieu, c'est vivant, mais ça dépend de rien pour que cette vie s'arrête. Et c'est ça que, en fait, on ressent implicitement, consciemment ou inconsciemment, à Noël, quels que soient les endroits, les fois, les civilisations, les peuples, c'est que ce sentiment, je vous parlais de paix, d'amour, de partage, de sérénité, c'est celui qu'on ressent, nous, face à un bébé, et qu'on devait ressentir quand on était bébé. On dit que la plus grande preuve d'amour de Dieu pour les hommes, suffit de se faire homme lui-même pour partager notre condition. Évidemment, ça ne se discute pas. Mais peut-être la preuve d'amour supérieure de sa part, ce fut de se confier à nous-mêmes. Donc moi, si je suis un futur empereur, je sais que je vais dominer le monde, je vais peut-être pas prendre le risque de 0 à 10 ans, ou même de 0 à 2 mois, d'aller me faire élever par des gens que je sais que je vais dominer, des gens dont je sais qu'ils sont pas... qui sont pas tous les plus intelligents, les plus aimables, qui peuvent avoir vu un coup de travers, qui peuvent être cruels, méchants, faibles. C'est-à-dire, mettre mon avenir puissant sur des gens que je vais dominer dans les mains de ces mêmes gens-là quand je suis pas capable de me défendre, c'est quand même une preuve d'amour extraordinaire. Parce que, à tout moment, ce Jésus pouvait disparaître. Je ne parle même pas de maladie, je parle de faux mouvements, d'une erreur d'inattention, enfin, vous avez tous eu des bébés, là. C'est-à-dire, on est tout le temps sur le qui-vive, en permanence. Et c'est quand même extraordinaire que Jésus ait pris le risque de venir parmi nous sans aucune défense. Moi, je trouve ça absolument effrayant comme prise de risque. Fallait-il qu'il nous aime pour se dire je vais prendre le risque que ça ne fonctionne pas parce qu'ils vont pas être capables de s'occuper de moi parce qu'ils sont pas assez intelligents, bienveillants, etc. Non, il a pris ce risque-là et il a en fait parié sur notre besoin de paix, d'amour, de partage, de sérénité. Il s'est dit ce que j'ai mis au fond d'eux, quand je les ai créés il y a bien bien longtemps, cette pensée de l'éternité, ces bons sentiments dont on se moque souvent. Face à un bébé, et moi en particulier, ils vont le développer à nouveau et je serai en sécurité. Et c'est pour ça que quand on parle de Marie, oui Marie, une femme extraordinaire, mais d'abord une femme à qui il a mis toute sa confiance, parce que qui d'autre qu'une mère s'occupe d'abord de son bébé et veille sur lui, c'est d'abord la mère, le père évidemment, les grands-parents, la famille, mais c'est elle qui est au centre de tout. Donc Marie, c'est extraordinaire que Jésus lui a dit « Je te confie ma vie, mes premiers moments de vie, mes premiers mois, ma naissance, c'est toi qui vas t'occuper de moi. Et tu vas t'occuper de moi avec tes moyens humains, mais tu vas jamais faillir à ta tâche. Tu vas m'aider, tu vas me protéger, tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin en tant que bébé. » Parce qu'un bébé, c'est d'abord se sacrifier soi-même pour lui. C'est-à-dire que le premier sacrifice que Jésus demande, c'est pas lui qui va le faire en quelque sorte. Il nous demande à nous, je vais vous aimer de tout mon cœur, je vais me donner ma vie pour vous, mais d'abord donnez votre vie pour moi. C'est-à-dire, les premiers mois, les premières années, il faudra vous occuper de moi complètement. Sacrifiez-vous. Pas aller là pour pouvoir faire en sorte que je vive complètement. Et les jeunes mamans savent très bien, toutes les mamans, de quoi je parle. Les premiers mois, c'est un esclavage absolu. Il n'y a pas une sortie, il n'y a rien. Non, je ne peux pas, j'ai le bébé, je ne peux pas. C'est une vie entre parenthèses pour que l'enfant vive. J'ai relu ces derniers moments un gros livre sur le procès de Nuremberg. Je ne vais pas donner à l'autre, mais là, ça va un peu. Nuremberg, vous savez ce que c'est, la guerre de. À la fin de la guerre de 39-45. Les principaux responsables nazis, ceux qui n'étaient pas morts, ont été arrêtés par les Américains et par les Russes, et il y a eu un grand procès qui a été monté à Nuremberg pour juger ceux qu'on a appelés les criminels de guerre pour la première fois. Et donc il y a évidemment des livres, des films qui ont été faits sur ça. Il y a un livre très intéressant d'un jeune soldat américain Parce qu'on se rendait compte que ces hommes tournaient en rond dans leur vagine et restaient complètement bloqués dans leur histoire. Ils étaient extrêmement surveillés pour qu'ils ne se suicident pas. Et en fait, ils s'embêtaient, ça tournait en rond. Et il y a un général qui a eu l'idée d'aller prendre, enfin, les appeler, un jeune qui était psychologue, qui a dit, va passer du temps avec eux, ça va les occuper, et en même temps, tu vas parler avec eux sans les juger, et tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça. Donc le gars, il a passé des semaines et des semaines, il allait voir, il était 22, de Göring à Ribbentrop. Il a parlé avec eux, donc il a fait un livre extrêmement passionnant. En plus, il était juif, donc ça c'était un hasard. Et à la fin, il est interrogé par un de ses responsables, il dit, mais alors, qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ces crimes, justement? Des choses épouvantables. Et le gars a répondu, alors il y en a plein, oui. La chose que j'ai compris, c'est que le mal qu'ils ont en eux, c'est parce que ces personnes-là n'ont aucune empathie. Ils ont une absence totale d'empathie. Alors, le gars est un peu déçu, mais je pensais qu'il allait trouver des raisons idéologiques. Non, l'idéologie, tout ça, ça ne vient que de ça. Ils n'ont pas d'empathie. Alors l'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'empathie. Il est souvent rendu par l'expression « se mettre à la place des autres ». Ces personnes-là, pour X raisons, hein, d'éducation, de culture, de naissance, enfin, tout ce que, n'avaient pas d'empathie. Ils ne pouvaient pas se mettre à la place d'une famille juive envoyée dans une chambre à gaz, se mettre à la place d'un résistant. Ils ne pouvaient pas. C'est pas qu'ils voulaient pas. C'était pas possible. Et le mal, disait cet homme, ce psychologue, c'est que on n'arrive pas à les faire se dire, si j'avais été à la place d'un tel, comment j'aurais réagi à ce qu'on me fait. Et il me semble que tout le message de Noël, il est là. C'est l'empathie. L'empathie, le jour de Noël, on a tous, non pas comme disait Johnny Hallyday, un peu de quelque chose de Tennessee en nous, on a tous un peu de Jésus en nous. À travers l'idée, je vous dis consciente ou inconsciente, que c'est le début du renouveau, c'est le soleil qui revient, c'est la fin des jours longs, donc c'est le bébé. Tout ça est lié, tout ça fait un espèce de mélange, et qui fait que face à un bébé, et face à ce qu'il représente, on a forcément de l'empathie. À part quelques individus qu'on trouve régulièrement. Et cette empathie, c'est ce qu'a fait Jésus toute son existence. Bon, regardez la femme adultère, le larron, Zacchée, l'homme paralysé, même envers Ponce Pilate, le centenier, les noces de Cana, enfin, il a toujours été dans l'empathie. J'essaie de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. J'essaie de me mettre à ta place. Je ne te juge pas. Enfin, tout est là. Tout est Et quand on prie Jésus, on a toujours le sentiment que il va nous comprendre parce qu'il a vécu ce qu'on a vécu. Il peut se mettre à notre place. Donc, c'est pas du jugement qu'on va entendre. C'est un conseil. C'est une information. C'est un avis de je me mets à ta place. Je suis d'abord dans l'empathie, on peut appeler ça l'amour, etc. Mais j'aime vraiment cette idée de me mettre à la place de l'autre. Et au pied de la crèche, au pied du sapin, on redevient tous des bébés qui ont besoin des autres pour survivre. C'est assez paradoxal. Je pense que quand on est dans l'ambiance de Noël et qu'on se retrouve ensemble, en fait, on a besoin de quoi à ce moment-là? On a besoin d'attention, d'amour, de sécurité, d'espérance, de tolérance, tout ce que reçoit un bébé de la part de ceux qu'il aime. Pourquoi Noël fonctionne si bien partout, en dehors de toute référence religieuse actée? C'est parce que c'est le retour à ce qui est au plus profond de nous. Ce besoin de qu'on a eu tous bébés, d'être aimé, protégé, sécurisé, compris, etc., d'être porté, et tout ce besoin-là, il a été centralisé pour nous chrétiens sur Jésus, qui est ce petit bébé qui va tant faire pour nous, mais pour le moment, c'est à nous de lui donner tout ça. Parce que plus tard, c'est lui qui nous donnera tout ça. Et c'est ce qui fait ce côté un peu gnangnan, un peu cucu de Noël, vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, si on est tous attachés, et quand on peut pas le fêter, quand on est seul, pourquoi on en souffre? C'est parce qu'on peut pas avoir ce retour à l'essentiel, ce retour à notre nature première, qui est forcément positive et pas négative. Tout le négatif de notre existence, il vient ensuite à force des mauvaises expériences qu'on peut vivre dans notre existence. En fait, Jésus nous fait sa venue, petit bébé, je vous l'ai dit, il aurait pu commencer beaucoup plus tard s'il avait voulu, il nous fait deux immenses cadeaux. Celui de nous croire importants en veillant sur lui. C'est-à-dire que dans la vie de Jésus, j'ai un rôle. C'est-à-dire Marie, Joseph, les frères et sœurs, les voisins, ils ont été nos frères et nos sœurs en protecteurs de Jésus. Donc nous sommes à égalité avec eux les protecteurs de ce Jésus bébé qui avait besoin qu'on s'occupe de lui pour ensuite s'occuper de nous. Et puis le deuxième cadeau qu'il nous fait, celui de croire facilement en lui. Car comment on peut rejeter un bébé? Quand vous voyez un bébé, vous lui donnez, je vous l'ai dit, toutes les possibilités, tout est ouvert. On va pas fermer la porte à un bébé en disant non, déjà t'es pas beau, t'es idiot, tu es méchant. Non, un bébé, tout est possible. Ce bébé, c'est la porte d'entrée la plus facile pour le faire venir dans nos vies. Celle qui réclame de notre part que ce que nous avons déjà au fond de nous naturellement. Aimer Jésus bébé, c'est en fait simplement mettre en place le précipité de notre création divine. Ce qui nous reste, le substrat, comme quand on fait un parfum, il reste que ça. Tout le reste a été bouffé par le péché, etc. Mais au fond de nous, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait que naturellement, on va aimer le bébé, on va aimer Jésus. Donc, il nous dit, vous ne savez pas comment m'aimer, vous ne savez pas comment me découvrir, c'est compliqué, ben regardez, je me suis fait bébé. Noël, c'est ça. Aimer un bébé, c'est facile. Et là, devant moi, vous me donnez de l'amour, vous me donnez de l'attention, vous me donnez de la gentillesse, vous me donnez du partage, vous m'offrez des cadeaux, comme font les rois mages. Donc c'est facile de m'aimer. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas m'aimer? J'y arrive. C'est très facile. Mais ensuite, il faut croître. On peut pas. Avec un bébé, si on avait un bébé qui serait bébé pendant 20 ans, normalement, c'est quand même embêtant. C'est pas... Non, il faut que ça avance. Il faut croître avec Jésus. Et il faut croître comme Jésus. Et vous savez, évidemment, tous les soucis, les problèmes, les contrariétés qu'il a eues dans son existence, jusqu'à la croix. Suivre Jésus bébé, c'est facile. À part les quelques hommes de Nuremberg et d'autres qui n'ont pas cette empathie parce que le mal les a bouffés dès le début, devant un bébé, ça marche. On peut aimer, on peut refaire ressortir toute la bonté qui est en nous. En fait, suivre Jésus bébé, c'est facile, c'est Noël. En mathématiques, en arithmétique plus précisément, il y a deux méthodes intéressantes, ça s'appelle le PPCM et le PGCD. Le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. On prend des nombres et il y a commun multiple, je sais pas. C'est le terme qui m'intéresse. Eh bien, Noël, c'est notre plus petit commun multiple. Parce qu'il s'adresse à tout le monde de façon très simple. Aimer un bébé, faire ressortir tout le bon qu'il y a en nous autour d'un bébé. On n'a même pas à se forcer parce que c'est en nous. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc Noël fonctionne partout. Même quand on oublie qui est le bébé, c'est pas grave. Ça fonctionne. Mais ensuite, suivre Jésus homme, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est Pâques. Ce que j'appelle le PGCD. Donc ça, c'est le plus grand commun diviseur. C'est le plus grand nombre qui divise. On a deux nombres, quel est l'autre? Le plus grand qui les divise. Donc le calcul, etc. Alors, en arithmétique, c'est beaucoup plus difficile de calculer le PGCD que le PPCM. Eh bien, Pâques, c'est le plus grand commun diviseur. Allez dire à quelqu'un, aime cet enfant, pauvre Jésus, bébé, le petit Jésus. C'est très facile de réunir tout le monde autour de ça, et la preuve, vous verrez le 24 au soir. Allez maintenant les mettre au pied de la croix et dire, voilà, il est mort, et dans 3 jours, il va ressusciter. Là, vous créez la division. Et là, vous avez le plus grand commun diviseur. Et c'est pour ça que la Bible, les évangiles ne parlent que de la résurrection. Parce que c'est là que veut nous amener Jésus. Et c'est là que c'est difficile. Donc c'est là qu'il faut expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui s'est passé. Les quatre évangiles en parlent. Tout le monde en parle. Paul en parle. Parce que ce plus grand commun diviseur, il est difficile à attraper, il est difficile à accepter. Alors c'est peut-être pour ça que Luc, il commence par la naissance. Il dit, oh les gars, si je vous parle de la mort tout de suite, vous allez pas, ça va pas fonctionner là. Je vais vous diviser tout de suite. Vous faites encore le test. Hein. Jésus est né dans une étable. Mais oui, c'est mignon, et pourquoi pas, c'est un homme comme les autres. Mais, très bien. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Va des rétros, c'est des bêtises, etc. Prenons Noël pour ça. Pas plus. Parce que l'évangile n'en dit pas plus. Mais pas moins non plus. Prenons-le comme notre moment, notre part d'enfance nécessaire, fondamentale, qui est au fond de nous. Et c'est cette part d'enfance qui fait qu'à un moment ou l'autre, chacun d'entre nous, à un moment, on a ouvert notre cœur vers Jésus. Au moins, on s'est intéressé. Parce que ce qu'il raconte, c'est que des choses qui sont dans l'empathie. Qui tu es? Je t'aime. Je veux te comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment je peux t'aider? Je vais te protéger. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais te nourrir. Emmanuel en parlait très bien dimanche dernier par rapport au petit bébé. C'est ça. Notre porte d'entrée première, je vous mets au défi de penser que c'était oui. Non, il a ressuscité, c'est super. C'est pas vrai, c'est pas possible. Trop compliqué pour nous. Faut d'abord que ça passe par nos tripes. Parce qu'on est. Par ce par quoi on est construit. On a été construit par nos parents, par. On est tous des bébés. Et petit à petit, on grandit, on grandit, on grandit. Et après, on peut comprendre, on peut accepter la mort, la résurrection. Mais il faut passer par Noël. Le problème, c'est que vous pouvez parler à plein de gens de Noël, et beaucoup de gens vont être d'accord sur beaucoup de choses. Même la crèche, mais pourquoi on ne met pas la crèche dans les mairies? Même s'ils ne sont pas chrétiens, mais quand même, c'est notre tradition. Parce que il semble que ça, c'est fondateur de quelque chose au fond d'eux-mêmes. Même si ça vous parle ou qu'ils ne le comprennent pas. Mais c'est pas suffisant. On peut pas s'arrêter à Noël. Et nous, on ne doit pas s'arrêter à Noël. Notre vraie fête, c'est Pâques. Mais Pâques n'existe que parce qu'on a été d'abord ému, touché et fier aussi de se dire « Jésus m'a confié sa vie quand il était tout petit pour que je le protège. » 33 ans plus tard, sur la croix, c'est l'inverse. À ce moment-là, je pense que on peut vivre Noël autour de crèches, des sapins, des cadeaux, c'est pas un problème. Parce qu'on sait la perspective qui va aller jusqu'à Pâques.